Vous écoutez Europe 1, il est 22h. Tout de suite, le journal Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Et roulement de tambour à Londres, les Britanniques ont enfin pu découvrir le Royal Baby. Les pronostiqueurs, eux, n'avaient pas vu venir le prénom. Délocaliser des fonctionnaires pour faire des économies, l'idée est dans l'air, sauf que les intéressés ne veulent pas en entendre parler, eux qui manifesteront demain dans tout le pays. Demandez le programme, celui de La République En Marche pour les Européennes sera présenté demain avec une dominante environnementale. Le preneur d'otages de Blagnac, toujours en garde à vue, il se présentait comme le bras armé des Gilets jaunes à Toulouse. L'Iran menace d'étendre son programme nucléaire. Chantage, répondent les États-Unis qui mettent en place de nouvelles sanctions. Et puis le foot, qui rejoindra Liverpool en finale de la Ligue des Champions, l'Ajax Amsterdam ou Tottenham. Les deux équipes s'affrontent en ce moment et à la mi-temps, pour l'instant, c'est l'Ajax qui mène 2-0 et qui donc, à ce stade, est qualifié pour la finale. Côté météo, cette journée du 8 mai a été très venteuse, vous avez pu le constater, en particulier sur la moitié ouest. Cette nuit et demain, ça soufflera encore, mais cette fois dans les terres, avec des pluies soutenues sur le nord-est. Prévision complète d'Elena Morna à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir, à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview Écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel qui reçoit ce soir François Pélissier, le directeur des sports de TF1.
Europe 1.
Ça y est, l'insoutenable suspense a pris fin. On a donc découvert aujourd'hui le visage et le prénom du fils de Meghan Markle et du prince Harry. Théo Manval, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. Les nouveaux parents ont déjoué tous les pronostics.
Archie, Harrison, Mountbatten, Windsor, une fois de plus, Meghan et Harry ont surpris et pris leur distance avec les usages de la famille royale. Archie, c'est un diminutif d'Archibald, Harrison, un prénom américain du jamais vu jusqu'ici. Alors ça a été validé hein, par la reine Elizabeth, mais ça laisse quand même les royal fans un petit peu circonspects.
Very, very unusual.
Inhabituel, dira simplement John. Dès ce matin, ils étaient nombreux, en tout cas, à se masser dans les cafés près du château de Windsor. Et vers 13h sont enfin apparus sur les chaînes de télévision les deux parents et cette petite chose drapée de blanc dans les bras.
Oh my gosh, it's amazing.
Et moi, immédiat, vous l'imaginez, chez les fans de la royauté qui n'ont pas de mots assez forts pour dire toute leur admiration devant ce bébé dont on n'a aperçu qu'une toute petite partie du visage.
Nice baby.
Qu'il est beau, tellement mignon, c'est un dessin de Dieu. C'est incroyable comme il ressemble à sa mère.
Vous arrivez à voir de quelle couleur sont ses cheveux?
Oui, je crois bien qu'ils sont roux, hein, c'est ça?
On dirait bien. Harry a l'air d'un vrai père déjà.
Diana serait si fière.
Voilà, à défaut du prénom, le visage, la petite bouille de ce nouveau royal baby Archie a en tout cas conquis tout le monde. À Windsor, Théo Manval, Europe 1.
En France, les cérémonies du 8 mai ce matin, sous la pluie, 74e anniversaire de la victoire contre le nazisme, la capitulation du Troisième Reich devant les Alliés actée le 8 mai 45 et qui a marqué la fin en Europe de la Seconde Guerre mondiale. Emmanuel Macron entouré des chefs militaires et de représentants des anciens combattants, de résistants, des déportés, a déposé une gerbe et ravivé la flamme au tombeau du soldat inconnu, au son de la Marseillaise, puis du chant des partisans. François Hollande et Nicolas Sarkozy figuraient notamment dans l'assistance. Cérémonie importante aussi pour Anaïs qui est venue avec sa fille, Leïla.
Voilà, on a un devoir de mémoire, un devoir de transmission. Donc là, ça prend forme, c'est un petit peu plus concret. On fait une petite pause dans sa vie, dans son quotidien et puis on essaye de se souvenir.
Je suis contente parce qu'on en a parlé à l'école et que c'était intéressant, même si j'ai pas tout compris. Comme j'avais pas tout compris, je me suis dit là-bas, papa il pourra mieux m'expliquer.
C'était qui le méchant et c'était qui les gentils?
Le méchant c'était Hitler, les gentils c'était la France, et les autres pays.
Une mère et sa fille ce matin sur les Champs-Élysées à l'occasion de ce 8 mai. Elles étaient au micro Europe 1 de Chanel Petit.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Les fonctionnaires seront dans la rue demain. 9 syndicats appellent à des manifestations un peu partout en France pour s'opposer au projet de loi de réforme de la fonction publique. Et il y a une annonce en particulier qui hérisse les intéressés. Le ministre des Comptes publics confirme en effet qu'il faut envisager de délocaliser certains services de l'État. C'est ce qu'avait évoqué déjà Emmanuel Macron dans son discours en réponse à la colère des Gilets jaunes. Ça se précise donc, les éloigner de Paris permettrait aussi, dit Gérald Darmanin, de faire des économies sur l'immobilier. Parmi les services visés, les 3000 agents des finances publiques par exemple, ce qui inquiète énormément Hélène Fauvel. Elle est la secrétaire générale du syndicat Force ouvrière des finances publiques.
Encore faudrait-il que nous sachions quels agents, quelles entités administratives et où. C'est-à-dire, c'est un sujet qui n'a jamais été véritablement discuté. Mais sur le fond, on vous dit, oui, si les collègues sont volontaires. Mais si les collègues ne sont pas volontaires et qu'on délocalise la mission, que va-t-il se passer? Et puis là, on parle de famille entière.
Vous vous verriez aller à Guéret ou dans le bassin minier ou en Bretagne, comme le dit le ministre?
Sûrement pas, je vous le dis clairement. Même si c'est compliqué, même si la région parisienne n'a pas que des avantages, moi, si je décidais de partir, vous voyez, j'aimerais bien pouvoir choisir ma destination. Or, les collègues qui vont être concernés, on va leur dire c'est là. Derrière, ça veut dire que c'est la qualité du service aussi qui est susceptible d'en pâtir par rapport à nos concitoyens, par rapport aux contribuables.
La secrétaire générale du syndicat Force ouvrière des finances publiques avec François Geffrier notait que des gilets jaunes devraient se joindre à cette mobilisation des fonctionnaires. On connaîtra demain le programme officiel de La République En Marche pour les élections européennes, programme pour une renaissance de l'Europe. Europe 1 a déjà quelques indiscrétions. Adrien Beck, le parti d'Emmanuel Macron place l'écologie en haut de ses priorités.
Oui, l'écologie qui avait été assez peu présente dans les annonces d'Emmanuel Macron en sortie du grand débat. Certains marcheurs étaient restés sur leur faim. Et bien voilà peut-être une façon de corriger le tir. L'écologie placée tout en haut, dès les premières pages du programme de La République En Marche, avec une proposition phare, investir au moins 1 000 milliards d'euros d'ici 2024 dans les transports propres, la rénovation des logements. Le programme évoque aussi une taxe carbone européenne. On le voit, l'ordre des priorités semble avoir changé, le verdissement est très clair, il faut dire qu'il y a des voies à aller chercher, notamment du côté d'Europe Écologie Les Verts, le parti de Yannick Jadot, autour de 8% dans les sondages. Pour le reste, le parti majoritaire confirme son ADN pro-européen, avec des propositions qui, pour certaines, avaient déjà été mises sur la table. La taxation des géants du numérique, par exemple, toujours pas aboutie au niveau européen. Un renforcement de Frontex, l'agence qui contrôle les frontières européennes, ou encore l'idée d'avancer vers une armée européenne, une trentaine de pages de propositions, donc, et quelques mots d'introduction comme pour dramatiser l'enjeu. Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Europe n'a été autant en danger.
Les précisions d'Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h07, merci d'écouter Europe 1. Le preneur d'otages de Blagnac est toujours entendu par les enquêteurs. Hier après-midi, ce jeune homme de 17 ans a fait irruption dans un bar tabac, prenant 4 femmes en otage pendant plusieurs heures. Il a fini par se rendre peu avant minuit. Et ce qui semble certain, en tout cas, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un braquage, Pierre de Cossette.
Oui, ça a été la crainte immédiate de la patronne du bar en voyant entrer hier ce jeune homme armé. Mais d'office, selon nos informations, le garçon a répondu qu'il n'était pas là pour prendre la caisse. Tout ça semble étayé par une vidéo diffusée en direct de son téléphone portable sur Internet. On y voit les 4 otages attablés et lui, t-shirt rouge, déambulé dans le bar en expliquant qu'il a été recruté par une milice armée qui cherche à ce que l'État soit plus juste. Le forcené se présente comme le bras armé des Gilets jaunes, revendication confirmée par la découverte en perquisition chez lui durant la prise d'otage, d'un courrier en forme de testament. Le procureur de Toulouse évoquait hier soir un jeune homme au semblant dépressif, préoccupé par son état de santé et qui comptait finir avec un coup d'éclat. En réalité, le garçon a très bien traité les otages et l'on s'est rendu compte que l'arme à feu avec laquelle il avait tiré 2 fois en l'air était en réalité un pistolet d'alarme chargé à blanc. Depuis la nuit dernière, il est interrogé par la police judiciaire qui cherche à comprendre davantage ses motivations. Ce n'est pas la première fois qu'il a affaire aux forces de l'ordre. Il a en particulier été interpellé le 15 décembre à Toulouse lors de la manifestation des Gilets jaunes. Il avait alors écopé d'un rappel à la loi.
Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. Ils viennent de parcourir 1300 km à pied en se relayant jour et nuit de Vintimille à Calais, d'une frontière à l'autre pour dénoncer la situation des migrants en Europe et la politique mise en place par l'Union européenne. Ces militants et bénévoles sont en train de boucler leur marche et d'arriver à Calais. Écoutez Marine de l'Auberge des migrants.
On avait eu ce spot publicitaire du gouvernement qui mettait l'immigration comme thème de campagne avec 2 propositions qui étaient maîtriser ou subir, et nous pensons que d'autres alternatives existent comme accueillir. On sait maintenant, et moi je suis ni politicienne ni économiste mais je crois à ceux qui me l'expliquent, que l'immigration c'est une chance et une richesse pour un pays, et je pense que c'est malhonnête que d'empêcher les gens qui ont besoin de sécurité et de paix de venir dans notre pays. Chaque humain a le droit de choisir le pays dans lequel il veut vivre, donc c'est pas respecté en Europe quoi, c'est quand même grave. Je me fais pas d'illusions, hein, ça va pas changer le monde. Mais si on peut véhiculer un message bienveillant, et si on peut juste échanger et apporter un petit peu d'optimisme, c'est déjà gagné.
Marine de l'Auberge des Migrants au micro Europe 1 de Lionel Gougelot. En meeting sur ses terres de Seine-Saint-Denis aujourd'hui, la tête de liste du Rassemblement National pour les élections européennes, Jordan Bardella, a dénoncé la submersion migratoire et l'islamisme qui mine selon lui ce département populaire et qui préfigure ce que pourrait être la France entière. C'est une annonce qui suscite l'inquiétude de la communauté internationale. Depuis ce matin, l'Iran a décidé de suspendre certains de ses engagements en matière de nucléaire. Téhéran menace de poursuivre son programme nucléaire si les pays occidentaux ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris. Menace qui s'adresse évidemment aux États-Unis qui ont décidé de rompre l'accord avec Téhéran. C'est clairement un ultimatum, Géraldine Vosner.
Oui, le président Rouhani l'a annoncé à la télévision. À partir d'aujourd'hui, l'Iran ne limitera plus ses réserves d'eau lourde et d'uranium enrichi comme il s'y était engagé. Et il laisse 60 jours aux États qui font toujours partie de l'accord, les Européens, la Chine, la Russie, pour respecter leurs propres engagements, alléger l'effet des sanctions américaines qui visent le pays. À l'issue de cette période, il menace de prendre de nouvelles mesures. Alors c'est un geste fort, évidemment, mais pas encore inquiétant. Téhéran a moins d'uranium et d'eau lourde sur son territoire qu'il n'y est autorisé aujourd'hui. Et les inspections quotidiennes de l'Agence internationale de l'énergie atomique vont se poursuivre. Mais c'est une façon de mettre la pression sur l'Europe, notamment, alors que l'économie de l'Iran est à genoux. Depuis le retrait des États-Unis de l'accord, les autres pays n'ont pas réussi à contourner les sanctions américaines. La menace de représailles est trop forte et l'Iran s'enfonce. Les réactions, d'ailleurs, à ce coup de poker ont été disparaître aujourd'hui entre appel au respect de l'accord par Téhéran, conseil de retenue. Washington assure ce soir qu'il ne cédera pas au chantage nucléaire et reste maître du jeu.
Les précisions de Géraldine Vosner et à l'instant Paris se dit préoccupé par les annonces de Téhéran et appelle à éviter toute escalade. Le conseil de sécurité de l'ONU tiendra vendredi une réunion d'urgence à huis clos sur la situation dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. Un exposé sur la situation humanitaire dans cette province où les hostilités se sont intensifiées depuis fin avril est attendu lors de cette session extraordinaire. En une semaine, selon l'ONU, plus de 150 000 personnes ont fui des secteurs tenus par des djihadistes dans cette région et visés par des frappes meurtrières des forces du régime de Bachar al-Assad et de son allié russe. Elle a passé 8 ans dans les couloirs de la mort. Asia Bibi aurait quitté le Pakistan aujourd'hui et serait désormais en sécurité avec ses filles au Canada, le pays qui toutefois refuse de confirmer cette information pour des raisons évidentes de sécurité. Cette chrétienne condamnée à mort pour blasphème en 2010 a finalement été acquittée il y a 6 mois après une vague d'indignation mondiale. Et puis le foot, au lendemain de l'exceptionnelle qualification de Liverpool pour la finale de la Ligue des Champions face au Barça, l'Ajax Amsterdam affronte en ce moment les Anglais de Tottenham, les Néerlandais qui avaient gagné le match aller 1-0 et qui dominent pour l'instant 2-0 alors qu'on en est à la 51e minute de jeu. Les Néerlandais qui donc à ce stade sont qualifiés pour la finale. On suivra ça d'ici 22h30, on fera un nouveau petit point sur cette rencontre. Et puis en tennis, Gaël Monfils et Jérémy Chardy qualifiés pour les 8e de finale du tournoi de Madrid. Monfils qui aura fort à faire puisqu'il affrontera Roger Federer qui a fait hier son grand retour sur terre battue et qui a éliminé Richard Gasquet. Et puis après Kristina Mladenovic, c'est Caroline Garcia qui s'est inclinée face à la numéro 2 mondiale Petra Kvitova. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. Météo très agitée, on l'a tous constaté. Les vents tempétueux sur le littoral breton et vendéen s'engouffrent maintenant dans les terres, Elena.
Oui, Isabelle, des rafales qui ne devraient pas atteindre les mêmes valeurs quand même que celles qu'on a eues sur les côtes, jusqu'à 120 km/h quand même, et toujours ce risque de vague submersion, hein, soyez prudents. Les vents forts suivent le tracé de la dépression qui circule en ce moment en Manche et qui affecte donc les régions du Nord-Ouest, Pays de la Loire, Normandie, puis Île-de-France et Hauts-de-France, et en fin de nuit, Champagne, Ardennes, Lorraine, Bourgogne, avec encore des rafales à 80-90 km/h. Prudence, hein. Alors demain, on aura les résidus de cette dépression, avec encore pas mal de pluie en matinée sur le Nord-Est, nuageux mais quelques averses ailleurs et même plutôt beau entre le sud de la Garonne et le pourtour méditerranéen. L'après-midi, l'atmosphère sera orageuse sur les trois quarts nord avec encore quelques rafales de vent. Ce sera quand même plus sec, hein, et plus lumineux sur le nord-ouest. Les températures en baisse le matin avec 6 à 14 degrés d'Épinal à Ajaccio. On est en dessous des valeurs de saison. Ça monte quand même un peu l'après-midi par rapport à aujourd'hui, mais enfin tout doux. Hein. Et surtout dans le sud avec 21 à 23 degrés près de la Méditerranée, 14 à 19 sur le reste du pays. Vendredi, petite accalmie, samedi orageux, dimanche sympa et le reste de la semaine prochaine quasiment estivale.
La météo signée, Elena Morna. Europe 1. Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de boursier.com. Juste avant, l'invité écho d'Emmanuel Dutheil qui reçoit ce soir le directeur des sports de TF1, François Pélissier. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h16 sur Europe 1, on s'intéresse à la bourse. Avec vous Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui calme le jeu après deux séances de forte baisse.
Deux séances, oui, de chute libre pratiquement, ça va mieux. Wall Street reprend son souffle, le Dow Jones regagne même 0,01%, une toute petite hausse, 25 967 points. Le Nasdaq perd encore quand même 0,26%, 7 943 points, mais c'est beaucoup plus calme que ces deux derniers jours. Le marché attend maintenant l'arrivée de la délégation chinoise à Washington demain afin de poursuivre les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis après le récent coup de sang de Donald Trump qui a refait monter la pression entre les deux pays. Alors, il y a beaucoup d'attentisme donc dans ces conditions. On ne sait pas trop ce qui va sortir du chapeau. Le pétrole, en attendant, remonte assez nettement, d'ailleurs au-dessus des $70 le Brent. Avec la situation, vous en parliez à l'instant, Isabelle, en Iran. Exxon en profite pour reprendre 0,2%, $76,84. Sur les valeurs de technologie, Tesla a bouclé sa levée de fonds de 2,7 milliards de dollars et repère 0,9%. Pour le reste, il n'y a pas vraiment de grosses variations. Twitter perd 0,08%, Facebook moins 0,12%, Amazon moins 0,17%, vraiment pas grand-chose. Et Apple est stable à $202,90 sur les devises. L'euro pointe juste sous les 1,12, 1,1190 face au dollar.
Et c'était très calme hein, aujourd'hui à la Bourse de Paris, Didier. Visiblement, les investisseurs ont observé la pause du 8 mai. Hein.
Tout à fait. Le CAC 40 a mis fin quand même à deux séances de forte baisse dans un marché extrêmement calme. Le CAC reprend 0,4%, 5 417 points, un petit rebond. Le marché donc est resté très calme, évidemment, parce qu'il manquait tout simplement des opérateurs et des investisseurs qui étaient partis un petit peu en week-end. Quelques valeurs ont rebondi quand même, comme Atos, plus 3%, Airbus, plus 1% aussi. Le groupe Airbus a reçu 67 commandes brutes de janvier à avril. Et puis SES a regagné 2% avec l'aide de JP Morgan, qui reste favorable à l'opérateur satellitaire. SES a repris 2% ce soir. Sur les autres grosses valeurs, Kering et LVMH, du côté du luxe, remontent d'un 1,5%. Et puis Rémy Cointreau et Pernod regagnent aussi 1,5%.
Et alors, exception du jour, le titre Air France KLM, qui a de nouveau été secoué.
Moins 2,7%, oui, sous les 9 euros. Ça continue de baisser sur Air France KLM, 8,97 €. Dans l'attente du comité économique et social le 13 mai prochain, qui sera l'occasion de détailler un plan de départ volontaire pour le personnel au sol d'Air France, le groupe avait publié une perte opérationnelle aggravée de plus de 300 millions d'euros au premier trimestre. C'était la semaine dernière et donc le titre reste en berne ce soir sous les 9 euros en baisse de 2,7%. Sur les autres places financières, pas beaucoup d'échanges non plus. On perd un petit peu de terrain à Bruxelles, moins 0,6. À Madrid, moins 0,1. Milan est stable. Francfort gagne quand même 0,7%. Et donc le CAC 40 reprend 0,4% à 5 417 points.
Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com. Merci pour ce tour d'horizon.
L'invité éco avec laposte.fr/pro pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique.
Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir le directeur des sports de TF1.
Bonsoir François Pélissier.
Bonsoir Emmanuel.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête du service des sports de TF1. Si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est que vous avez présenté le dispositif pour la Coupe du Monde de football féminine, la Coupe du Monde qui va débuter tout début juin. On a l'impression que vous avez dupliqué le dispositif pour les garçons.
C'est un événement exceptionnel qui va avoir lieu dans un mois, pratiquement jour pour jour. C'est une Coupe du Monde de football qui se déroule en France. Et pour un événement exceptionnel, évidemment, on a décidé de mettre en place un dispositif très ambitieux, à l'image de ce qu'on fait sur les grands événements de sport, que ce soit un Euro de football, une Coupe du Monde de football ou une Coupe du Monde de rugby. Donc ce dispositif sera très ambitieux et il a déjà commencé puisque la semaine dernière, on a présenté la liste des 23 sélectionnés par les 23 bleus sélectionnés par Corinne Diacre dans une édition spéciale de 20h Le Mag avec Gilles Boulot, plus de 5 millions de téléspectateurs.
Alors ça va être un gros défi pour vous, hein. Les 25 plus belles affiches vont être sur le groupe TF1, ça ne veut pas dire toute sur TF1 parce que vous allez aussi beaucoup utiliser TMC. Vous allez diffuser l'intégralité, bien évidemment, des matchs de l'équipe de France de football. Quelles sont les ambitions en termes d'audience? À partir de combien de millions de téléspectateurs vous vous direz, par exemple, pour le match d'ouverture, tiens, on a réussi notre coup, on a réussi à susciter l'intérêt?
C'est difficile parce qu'on n'a pas vraiment de repères sur cette Coupe du Monde féminine. Autant on en a sur les autres compétitions. Là, c'est assez particulier. D'abord, le football féminin, le sport féminin en général, prend une ampleur de plus en plus importante depuis quelques années. Et puis, c'est une compétition, comme je le disais, qui se déroule en France. Donc, ça a un caractère aussi particulier. Je suis convaincu qu'il y aura beaucoup de monde devant la télé, plusieurs millions de téléspectateurs vendredi 7 juin pour le match d'ouverture de l'équipe de France contre la Corée, dans un Parc des Princes qui sera plein. Donc on a plusieurs, je dirais, faisceaux qui nous montrent une tendance forte de ce côté populaire que va être la compétition.
Qu'est-ce qui est malgré tout différent pour cette Coupe du Monde de football féminine par rapport à une Coupe du Monde des garçons? Vous avez mis... plus de commentateurs également femmes qu'on va retrouver au bord du terrain. Mais qu'est-ce qui change dans votre dispositif?
Ce qui change, c'est qu'en effet, on a un peu adapté je dirais les consultants, les spécialistes qui vont venir commenter cette Coupe du Monde. On garde je dirais la base très forte de nos dispositifs événementiels sur ces Coupes du Monde. On retrouve notre duo de commentateurs phares, Margot Thon, Lisa Razou. Sur les matchs de l'équipe de France, on aura Camille Abili comme femme de terrain, puisqu'elle sera au bord du terrain pour commenter avec Grégoire et Bichente. On aura Christian Jean-Pierre avec Sabrina Delannoy, qui est une ancienne joueuse du PSG, qui commentera aussi une dizaine de matchs. Et puis, sur le MAC de la Coupe du Monde, qui est le magazine qu'on a l'habitude de faire pour les grands événements, il sera présenté par Denis Brognard, comme toujours, avec Nathalie Yaneta, qui était déjà avec nous pour la Coupe du Monde en Russie l'année dernière. Et il y aura avec eux Louisa Nessib, une ancienne grande joueuse de foot internationale française, et Olivier Chouafny, l'actuel entraîneur de la section féminine du PSG. Donc voilà, on s'adapte, on garde, je dirais, les bases fortes qui ont fait le succès du traitement de cet événement l'année dernière pour la Coupe du Monde masculine, et on l'a adapté pour cette Coupe du Monde féminine. Mais on reste sur un dispositif équivalent.
Alors un dispositif équivalent, on sait qu'une Coupe du Monde de football, peut-être hormis quand la France arrive jusqu'en finale et arrive à gagner, ce n'est pas rentable pour un groupe comme TF1 parce que ça coûte tellement cher. Là pour les filles, ça coûte combien et est-ce que c'est potentiellement rentable?
Je vous donnerai pas de chiffres parce que on donne jamais de chiffres sur les montants des droits et je peux pas vous parler de rentabilité puisque la Coupe du Monde n'a même pas commencé. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une demande importante et une attente forte de la part des annonceurs. La régie publicitaire a publié ses tarifs il y a déjà plusieurs semaines et c'est vrai qu'il y a, on le sent, une attente forte. Je pense que c'est une attente forte à la fois des annonceurs, mais aussi, je pense, des Français en général. On voit qu'il y a déjà près de 800 000 billets qui ont été vendus, plusieurs matchs à guichet fermé. On voit que les médias s'y intéressent. La conférence de presse qu'on a tenue hier matin à TF1, il y avait plus de monde, plus de journalistes que pour la Coupe du Monde, celle de la Coupe du Monde masculine l'année dernière.
Ah oui,
donc on sent une forte attente. Et on verra, on fera le bilan à la fin de cette Coupe du Monde.
Alors, à la fin de cette Coupe du Monde, ce qui est intéressant aussi du côté du groupe TF1, c'est qu'on a l'impression que vous voulez aller peut-être encore plus que ce que vous faisiez jusque-là sur les événements sportifs. On vous retrouve, par exemple, pour la Coupe du Monde de rugby et ce genre de choses. De plus en plus, finalement, TF1 veut être au bord des stades avec les spectateurs, les Français, tout le monde.
La Coupe du Monde de rugby, on les a pratiquement toutes faites. Il n'y a que celle de 2003, je crois, qu'on n'a pas faite. Donc depuis 1987, elles sont sur TF1. La particularité cette année, c'est qu'elles seront en intégralité sur les antennes du groupe. Ça, c'est nouveau. Et ce qui est vrai, c'est qu'on essaie de renforcer notre portefeuille de droits. Ça reste, encore une fois, dans l'ADN de TF1 de proposer les plus grands événements dans tous les genres de programmes. C'est vrai pour le cinéma, c'est vrai pour le divertissement, pour la fiction française comme pour l'information. Le sport, là aussi, on se doit d'être présent. Et c'est vrai que quand on regarde l'année 2019, on a commencé avec du handball, on a fait le Super Bowl, on aura la finale de la Ligue des champions féminine dans quelques jours, celle qui opposera Lyon à Barcelone. On a l'équipe de France de foot, on a des badges de qualification à l'Euro 2020, on a la Coupe du Monde féminine, on a la Coupe du Monde de rugby, on aura les championnats du monde de handball féminin à la fin de l'année. Plus la Formule 1 qui revient en force avec Monaco dès la fin du mois de mai.
Mais
donc vous le voyez, on a un portefeuille très important.
Est-ce qu'il n'y a pas une grosse déception quand on dirige les sports de la Une, en revanche, de ne pas avoir les Jeux Olympiques de 2024 en France ?
Pas du tout, mais en tout cas... Il n'y a aucune déception pour nous.
Merci beaucoup François Pélissier, le directeur des sports de TF1, d'avoir été ce soir notre invité. On va bien évidemment vibrer également sur Europe 1 avec cette équipe de France féminine de football. Et justement, tiens, en parlant d'équipe féminine, demain soir, ce sera Anne-Laure Jumet aux commandes de l'Interview Écho. À bientôt.
Merci beaucoup, à très vite Emmanuel Duteil. C'était l'invité écho avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? A tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Le visage d'Emmanuel Macron sur fond vert est à la une de Libération qui titre « Européenne, Macron la carte verte ». Peu soucieux d'environnement quand il a été élu, le président cherche aujourd'hui à se construire une image écolo. Un thème porteur en vue des prochaines élections, le président tente de reverdir son image. En témoignent les mesures vertes du programme électoral de la liste La République en marche pour les Européennes, programme qui sera présenté demain mais qu'on a déjà évoqué ce soir dans le journal de 22h sur Europe 1. Européenne, l'oiseau veut relancer sa campagne, écrit justement Le Figaro. Objectif, repartir de zéro. Après un démarrage difficile, la tête de liste de la majorité, Nathalie Loiseau, a dévoilé ses propositions. Elle voudrait transformer le scrutin en duel entre partisans et détracteurs de l'Europe. Parlement européen, la France en mal d'influence. C'est ce qu'écrit pour sa part le journal L'Opinion. Les dirigeants des 27 se retrouvent demain en Roumanie pour un sommet informel des destiné à lancer les travaux sur l'agenda stratégique européen des 5 prochaines années. Il y sera aussi question des nominations à la tête des grandes institutions, à commencer par la présidence de la Commission. L'occasion pour Emmanuel Macron de pousser ses pions alors que les élections du mois de mai pourraient se traduire par un nouveau recul de l'influence française, lié notamment au faible taux d'eurodéputés sortant sur les listes. Réforme des retraites, ce qu'il reste à trancher. Le journal La Croix nous rappelle que la concertation sur le système universel de retraite s'achève vendredi. Un projet de loi est attendu à la fin de l'été. Climat, l'Europe en progrès sur les émissions de COD. C'est ce que nous disent les échos, car ces émissions ont baissé de 2,5% l'an dernier dans l'Union européenne. Une diminution qui s'explique par le recours plus important aux énergies renouvelables dans la production d'électricité. Et voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et ça bouge du côté du foot. Vous savez qu'on suit en ce moment la demi-finale retour de Ligue des Champions entre l'Ajax Amsterdam et Tottenham. On attend de savoir qui affrontera Liverpool en finale de cette Ligue des Champions. On est à 67 minutes très précisément de la fin de la rencontre et c'est pour l'instant un score vierge de 2-2 entre l'Ajax et Tottenham. Donc c'est toujours l'Ajax qui est qualifié à ce stade, mais il suffirait que Tottenham marque un seul but et c'est lui qui irait en finale. On suit ça donc de très près pour vous. Je vous souhaite en attendant une très belle soirée à l'écoute d'Europe 1. Vous êtes en compagnie de Sophie Peters pour La Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle.
Et je vous retrouve à 23h pour un prochain point sur l'info.
Absolument, à tout à l'heure.